Wikipédia, Léonard de Vinci. Nom de naissance Leonardo di Ser Piero da Vinci. Naissance 15 avril 1452. Vinci, Toscane, Italie. Décès 2 mai 1519. Nationalité florentin, italien. Maître Andrea del Verrocchio. Élève Salé, Francesco Malzi. Mouvement artistique autre naissance. Œuvre réputée La Joconde, La Seine, L'Homme de Vitruve. Mécène Laurent de Médicis, Ludovic Sforza, François Ier de France. Illustration, Léonard de Vinci. Autoportrait fait entre 1512 et 1515. 1. Léonard de Vinci, Leonardo di Ser Piero da Vinci écouté, dit Leonardo da Vinci. 2. Né à Vinci le 15 avril 1452, et mort à Amboise le 2 mai 1519, est un peintre florentin, qui fut un homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Après son enfance à Vinci, Léonard est élève auprès du célèbre peintre florentin Andrea del Verrocchio. Ses premiers travaux importants sont réalisés au service du duc Ludovic Sforza à Milan. Il œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise et passe les dernières années de sa vie en France, à l'invitation du roi François Ier. Léonard de Vinci est souvent décrit comme l'archétype et le symbole de l'homme de la Renaissance, un génie universel et un philosophe humaniste, dont la curiosité infinie est seulement égalée par la force d'invention. 3. Il est considéré comme un des plus grands peintres de tous les temps, et peut-être la personne la plus talentueuse dans le plus grand nombre de domaines différents ayant jamais vécu. 4. C'est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, La Joconde et La Seine, sont des peintures très célèbres, souvent copiées et parodiées. 3. Et son dessin de l'homme de Vitruve est également repris dans de nombreux travaux dérivés. Seules une quinzaine d'œuvres sont parvenues jusqu'à nous, ce petit nombre est dû à ses expérimentations constantes, et parfois désastreuses de nouvelles techniques, et sa procrastination chronique. 5. Néanmoins, ces quelques œuvres, jointes à ses carnets qui contiennent des dessins, des diagrammes scientifiques et des réflexions sur la nature de la peinture, sont une contribution aux générations suivantes d'artistes seulement égalées par Michel-Ange. Comme ingénieur et inventeur, Léonard développe des idées très en avance sur son temps, depuis l'hélicoptère, le char de combat, le sous-marin jusqu'à la bicyclette, si c'est l'automobile. Très peu de ses projets sont construits, ni même seulement réalisables de son vivant. 7. Mais certaines de ses plus petites inventions, comme une machine pour mesurer la limite élastique d'un câble, entrent dans le monde de la manufacture. 8. En tant que scientifique, Léonard de Vinci a beaucoup fait progresser la connaissance dans les domaines de l'anatomie, le génie civil, l'optique et l'hydrodynamique. Biographie modifiée. Enfance modifiée. Léonard de Vinci est né le samedi 15 avril 1452 à la 3e heure de la nuit, c'est-à-dire 3 heures après l'Ave Maria, soit 22h30. 9. D'une relation amoureuse illégitime entre son père, Messer Piero Fruosino di Antonio da Vinci, notaire, chancelier et ambassadeur de la République florentine, et descendant d'une riche famille de notables italiens, et sa mère, Catrina, une humble fille de paysan, dans le petit village toscan d'Anciano, un village situé à 2 km de Vinci. 10. Sur le territoire de Florence en Italie. 11. 12. Une étude en 2006 note qu'il semble probable que Catrina soit une esclave venue du Moyen-Orient. 13. Léonard, ou plutôt Leonardo selon son nom de baptême. 9. Est baptisé puis passe ses 5 premières années chez son père à Vinci. 9. Où il est traité comme un enfant légitime. 14. Il a 5 marraines et 5 parrains, tout habitant le village. 9. Il reçoit une instruction et acquiert ainsi la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Néanmoins, il n'étudie pas sérieusement. C'est le latin, base de l'enseignement traditionnel, et une orthographe chaotique montre que cette instruction n'est pas sans lacune, en tout cas elle ne fut pas celle d'un universitaire. 15. À cette époque, les conventions d'appellation moderne ne se sont pas encore développées en Europe. Seules les grandes familles font usage du nom de leur appartenance patronymique. L'homme du peuple est désigné par son prénom, auquel on adjoint toute précision utile, le nom du père, le lieu d'origine, un surnom, le nom du maître pour un artisan, etc. Par conséquent, le nom de l'artiste est Leonardo di Ser Piero da Vinci, ce qui signifie Leonardo, fils de maître Piero de Vinci. Néanmoins, le d'apporte une majuscule, afin de distinguer qu'il s'agit d'un patronyme. 9. Léonard lui-même signe simplement ses travaux Leonardo Bruno, Leonardo, moi, Léonard. La plupart des autorités rapportent donc ses travaux en tant que Leonardo sans le da Vinci. Vraisemblablement, il n'emploie pas le nom de son père, parce qu'il est un enfant illégitime. Vinci provient des Vinci, une plante assimilable à des joncs, utilisée dans l'artisanat toscan, et qui pousse près du ruisseau Vincio. 9. En 1457, il a 5 ans quand sa mère se marie avec Antonio di Piero Butti del Vecca da Vinci, un paysan de la ville, avec lequel elle aura 5 enfants. 9. Il est alors admis dans la maison de la famille de son père, du village de Vinci, qui, entre-temps, a épousé une jeune fille d'une riche famille de Florence, âgée de 16 ans, Albera degli Amadori, 9. Celle-ci, sans enfant, reporte toute son affection sur Léonard, mais elle meurt très jeune en couchant en 1464, 9. Considéré dès sa naissance comme un fils à part entière par son père, il ne fut cependant jamais légitimé. Son père se maria 4 fois, et lui donna 10 frères et 2 sœurs légitimes venus après Léonard. Il aura de bons rapports avec la dernière femme de son père, Lucrezia Guglielmo Cortigiani, et laissera une note et la planchère et douce mère 9. Sa grand-mère paternelle, Lucia di Ser Piero di Zoso, céramiste et proche de Léonard, est peut-être la personne qui l'initia aux arts, 9. Un pressage connu rapporte qu'un milan venu du ciel, aurait fait un vol stationnaire au-dessus de son berceau, la queue de l'oiseau le touchant au visage, 16, 17. Giorgio Vasari, le biographe du XVIe siècle des peintres de la Renaissance, raconte, dans le Vite, 1568, l'histoire d'un paysan local qui demanda à Ser Piero, 18, que son talentueux fils peigne une image sur une plaque. Léonard peignit une image représentant un dragon crachant du feu, qui a été si réussi que Ser Piero la vendit à un marchand d'art florentin, qui lui-même la revendit au duc de Milan. Entre-temps, après avoir réalisé un bénéfice, Ser Piero acheta une plaque décorée d'un cœur transpercé d'une flèche, qu'il donna au paysan, 19. Formation à l'atelier de Verrocchio modifié. Le jeune Léonard est proche de la nature, qu'il observe avec une vive curiosité et s'intéresse à tout. Il dessine déjà des caricatures, et pratique l'écriture spéculaire en dialecte toscan. Giorgio Vasari, dans sa biographie de Léonard, raconte une anecdote sur les premiers pas, dans la carrière artistique de celui qui allait devenir un des plus grands peintres de la Renaissance. Un jour, le père de Léonard, Ser Piero, prit plusieurs de ses dessins et les soumit à son ami Andrea del Verrocchio, qu'il pria instamment de lui dire si Léonard devait se consacrer à l'art du dessin, et s'il pourrait parvenir à quelque chose en cette matière. Andrea s'étonna fort des débuts extraordinaires de Léonard, et exhorta Ser Piero à lui permettre de choisir ce métier, sur quoi, Ser Piero résolut que Léonard entrerait à l'atelier d'Andrea. Léonard ne se fit pas prier, non content d'exercer ce métier, il exerça ensuite tous ceux qui se rattachent à l'art du dessin, c'est ainsi que Léonard est placé, comme élève apprenti à partie. R. 2469, dans un des plus prestigieux ateliers d'art de la Renaissance de Florence sous le patronage d'Andrea del Verrocchio à qui il doit sa formation multidisciplinaire d'excellence, où il côtoie d'autres artistes comme Sandro Botticelli, le Pérugin et Domenico Ghirlandaio, 16, 20. En effet, jusqu'en 1468, Léonard est recensé comme résident de la commune de Vinci, mais il est très souvent à Florence où son père travaille. 9. Verrocchio est un artiste renommé, 21 très éclectique, orfèvre et forgeron de formation, 20, peintre, sculpteur et fondeur qui travaille notamment, pour le riche mécène Laurent de Médicis. Les commandes principales sont des retables, et des statues commémoratives pour les églises. Cependant, les plus grandes commandes sont des fresques pour les chapelles, comme celles créées par Domenico Ghirlandaio, et son atelier pour la chapelle Tornabuoni, et de grandes statues telles que les statues équestres de Gattamelata par Donatello et Bartolomeo Coloni de Verrocchio, 22. Léonard travaille également avec Antonio Poleolo, dont l'atelier est proche de celui de Verrocchio. Après un an passé au nettoyage des pinceaux, et autres petits travaux d'apprenti, Léonard est initié par Verrocchio aux nombreuses techniques pratiquées dans un atelier traditionnel, malgré le fait que certains artisans, sont spécialisés dans certaines tâches telles que l'encadrement, les dorures et le travail du bronze. Il a donc eu l'occasion d'apprendre notamment des bases de la chimie, de la métallurgie, du travail du cuir et du plâtre, de la mécanique et de la menuiserie, ainsi que des techniques artistiques de dessin, de peinture et de sculpture sur marbre et sur bronze, 23, 24. Il est également initié à la préparation des couleurs, la gravure, la peinture des fresques. Par la suite, Verrocchio confie à son élève, qu'il trouve exceptionnel, le soin privilégié de terminer ses tableaux. Mais la formation reçue lors de son apprentissage à l'atelier Verrocchio semble plus large encore. Léonard acquit la connaissance du calcul algorithmique, et il cite les deux abbassistes florentins les plus en vue, Paolo Toscan, Elie del Paso et Leonardo Cernioneuse, 15. Plus tard Léonard paraît bien faire allusion à la Nobel Opera d'Arithmetica, de Piero Borgi, imprimée à Venise en 1484, et qui représente bien la science de ses écoles d'Abac, 15. Il n'y a pas d'œuvre de Léonard connue pendant cette période mais, selon Vasari, il aurait collaboré à une peinture nommée Le baptême du Christ, 1472-1475-19. C'est d'ailleurs, selon la légende, à cause de la qualité du petit ange peint par Vinci pour ce tableau que Verrocchio, se sentant surpassé par son jeune assistant, décide de ne plus peindre, 14. Selon la tradition qui veut, que ce soit l'apprenti qui prenne la pose, 11, Léonard aurait servi de modèle à la statue en bronze de David de Verrocchio. Il est également supposé que l'archange Michel dans l'œuvre Toby, et l'ange de Verrocchio est le portrait de Léonard, 11. En 1472, à l'âge de 20 ans, il est enregistré dans le livre rouge de la Guilde de Saint-Luc, célèbre guilde des artistes peintres et des docteurs en médecine de Florence, le Campagna de Pittori. Il y a quelques traces de cette période de la vie de Léonard, dont la date d'un de ses premiers travaux, un dessin fait à la plume et à l'encre, paysage de Santa Maria della Neve, 1473. Par la suite, sa carrière de peintre débute par des œuvres immédiatement remarquables telles que l'Annonciation, 1472-1475. Il améliore la technique du sfumato, impression de brume, à un point de raffinement jamais atteint avant lui. Il est toujours mentionné en 1476 comme assistant de Verrocchio, car, même après que son père lui ait mis en place son propre atelier, son attachement à Verrocchio est tel qu'il a continué à collaborer avec lui. 16. Pendant cette période, il reçoit des commandes personnelles. Il peint son premier tableau, la Madonna l'œillet, 1476, et entre, la même année, dans l'atelier de Paolo Uccello, où il étudie la perspective, rêve nécessaire. Léonard s'affirme presque tout de suite comme un ingénieur. En 1478, il offre de soulever, sans en causer la ruine, l'église octogone de Saint-Jean de Florence, le baptistère actuel, pour y ajouter un soubassement. 15. Les archives judiciaires de 1476 montrent que, avec trois autres hommes, il a été accusé de sodomie, pratique à l'époque illégale à Florence, mais tous ont été acquittés des charges retenues. 25. Ce document partant d'une accusation anonyme, ne permet cependant pas d'affirmer si Léonard était homosexuel. 25. Deux années plus tard, à 26 ans, il quitte son maître après l'avoir brillamment dépassé dans toutes les disciplines. Léonard de Vinci devient alors maître peintre indépendant, au service de Ludovic Sforza modifié. En 1481, le monastère de San Donato lui commande l'adoration des mages, 1481, mais Léonard ne terminera jamais ce tableau, probablement déçu ou vexé de ne pas être choisi par le pape Sixte IV, pour la décoration de la chapelle Sixtine du Vatican à Rome où il est en concurrence avec plusieurs peintres. 26. Le néoplatonisme en vogue à l'époque et à Florence joue peut-être également un rôle dans son départ vers une ville plus académique et pragmatique que Milan. 26. Cela est probablement plus en phase avec son esprit, basé sur un développement empirique grâce à ses multiples expériences. Vinci peint la Vierge au Rocher, 1483-1486, pour la confraternité de l'Immaculée Conception à la chapelle San Francesco Grande de Milan, mais ce tableau sera au centre d'un conflit entre l'auteur et ses commanditaires pendant plusieurs années. 26. En effet, Léonard s'engage avec le droit de pouvoir copier l'œuvre, mais cela lui est refusé par la suite, il est donc contraint de stopper son travail, provoquant du retard. Ce n'est que des décisions de justice, et ses amitiés qui résoudront le problème. À Florence, le travail de Léonard ne passe pas inaperçu. Laurent de Médicis apprend que Léonard a créé une lyre argentée en forme de tête de cheval. Impressionné par son travail, il envoie Léonard à Milan, comme émissaire et pour qu'il travaille pour le mécène et duc de Milan, Ludovic Sforza. Le but de cette manœuvre est de rester en bonne relation avec ce rival important. 27. Il est très probablement accompagné par le musicien à talent Migliorotti. 26. Il écrit également une lettre à Ludovic, lettre qui figure dans le Codex Atlantico, qui décrit les nombreuses et diverses choses merveilleuses qu'il pourrait faire dans le domaine de l'ingénierie, et informe le seigneur qu'il peut aussi peindre. 28. 20. Ce texte est bien dans la tradition des ingénieurs qui l'ont précédé, il reprend le même programme, les mêmes curiosités et les mêmes recherches. Désormais, c'est bien en ingénieur que Léonard va vivre et travailler. 15. Sforza l'emploie à des tâches diverses sous le titre mythique d'appel florentin, réserve, peu accent aigu au grand peintre. 26. L'artiste est ainsi ordonnateur de fêtes et spectacles aux décors somptueux du palais, et invente des machines de théâtre qui émerveillent le public, il peint plusieurs portraits de la cour milanaise. Léonard de Vinci est porté sur la liste des ingénieurs des Sforza, et lorsqu'on l'envoie à Pavie, il est qualifié d'ingénieur Ducali. 15. Mais des contacts avec les cercles éclairés de Milan, lui montrent également toutes les lacunes de sa formation. 15. Il s'occupe également de l'étude pour le dôme de la cathédrale de Milan, et d'une version en argile pour faire un moule pour le grand Cavallo, il Cavallo, le cheval de Léonard, une imposante statue équestre en l'honneur de François Sforza, le père et prédécesseur de Ludovic, faite de 70 tonnes de bronze, ce qui constitue une véritable prouesse technique pour l'époque. Cette statue reste inachevée plusieurs années, Michel-Ange reconnaissant lui-même qu'il est incapable de la fondre. 16. Lorsque Léonard finit la version en argile pour le moule, et ses plans pour le processus de fonte, le bronze prévu pour la statue, est utilisé pour la création de canons pour défendre la ville de l'invasion de Charles-VIII de France. 20. En 1490, il participe à une sorte de congrès d'architectes et d'ingénieurs, réunis pour l'achèvement du dôme de Milan, et fait la connaissance d'un autre ingénieur, dont la renommée était bien établie, Francesco di Giorgio Martini. Ce dernier l'emmène à Parme, avec Giovanni Antonio Amado et Luca Fancelli, où on lui a demandé une autre consultation pour la construction de la cathédrale. 15. C'est à cette époque que Léonard réfléchit à des projets techniques et militaires. Il améliore les horloges, le métier à tisser, les grues et de nombreux autres outils. Il étudie aussi l'urbanisme et propose des plans de cité idéale. Il s'intéresse à l'aménagement hydraulique et un document de 1498 le cite comme ingénieur et chargé des travaux sur les fleuves et les canaux 15. Bien que vivant à Milan entre 1493 et 1495, Léonard a noté dans ses documents d'imposition qu'il a, à sa charge, une femme appelée Katrina. À la mort de celle-ci, en 1495, la liste détaillée des dépenses relatives à ses funérailles laisse à penser que c'est à sa mère plutôt qu'une servante. 29, 16. Vers 1490, il crée une académie portant son nom et où il enseigne pendant quelques années, son savoir tout en notant ses recherches dans de petits traités. La fresque La Scène, 1494-1498, est peinte pour le couvent dominicain de Santa Maria del Grazi, 16. En 1496, Luca Pacioli arrive à Milan, Léonard de Vinci se lie tout de suite d'amitié, et réalise pour lui les planches gravées de la Divina Proportione, 15. Un peu plus tard, en 1498, il réalise le plafond du château des Sforza, 26. En 1499, lorsque les troupes de Louis XII de France prennent le duché de Milan, et destituent Ludovic Sforza, qui s'enfuit en Allemagne chez son neveu Maximilien Ier du Saint-Empire, 30, sa statue équestre en argile, est détruite par les Français qui l'utilisent comme cible d'entraînement, 31. Louis XII revendique ses droits à la succession des Visconti, 30. Louis XII envisage de découper le mur représentant la Seine pour l'emporter en France, comme l'imaginera également Napoléon Ier quelques siècles plus tard, 26. Avec la chute de Sforza, Léonard entre au service du comte de Ligny, Louis de Luxembourg, qui lui demande de préparer un rapport sur l'état de la défense militaire de la Toscane, 15. Le retour inopiné de Ludovic Sforza modifie ses projets et, avec son assistant Salé, il fuit Milan en février 1499 pour Mantoue puis Venise. Artiste et ingénieur modifié. En mars 1499, Léonard de Vinci est alors employé, comme architecte et ingénieur militaire, 16, 11 par les Vénitiens qui cherchent à protéger leur cité. Il élabore des méthodes pour défendre la ville d'une attaque navale des Turcs avec, notamment, l'invention d'un scaphandre autonome rudimentaire. Les Turcs n'attaquant pas, l'invention ne sera jamais utilisée. Fin avril, il est de retour à Florence. Il étudie les cours d'eau du Frioul, et propose un relèvement du cours de l'Isonzo par des écluses, de façon à pouvoir inonder toute une région qui couvrait les approches de Venise, 15. En avril 1500, il revient à Venise pour deux mois après avoir séjourné à Mantoue en compagnie du moine mathématicien Luca Pacioli où il fut fortement remarqué pour un portrait d'Isabelle d'Este. Une lettre du 4 avril 1501, par laquelle Pierre de Nuvolaria, répond à la duchesse de Mantoue, indique que ses études mathématiques l'ont dégoûté de la peinture, ainsi Léonard de Vinci poursuivait bien des recherches plus larges, 15. Il fait un bref séjour à Rome à la villa d'Adrien à Tivoli, 30. Il travaille la Madone au fuseau pour Florimond Robertet, le secrétaire d'État de Louis XII de France, 30. En 1502, il est appelé par le prince César Borgia, duc de Valentinois et fils du pape Alexandre VI, avec le titre de capitaine et ingénieur général 11. Il séjourne dans les marches et la Romagne pour inspecter les forteresses et les territoires nouvellement conquis, remplissant ses carnets de ses multiples observations, cartes, croquis de travail et copies d'ouvrages consultés dans les bibliothèques des villes qu'il traverse, 15. Il rencontre Nicolas Machiavel, espion de Florence au service de Borgia. Le 18 octobre 1503, il retourne à Florence où il remplit les fonctions d'architecte et d'ingénieur hydraulicien, 15. Il se réinscrit à la guilde de Saint-Luc, et passe deux années à préparer et faire la bataille d'Anghiari, 1503-1505, une fresque murale imposante, 11 de 7 mètres sur 17, 30, avec Michel-Ange faisant. La bataille de Cassina sur la paroi opposée, 30. Les deux œuvres seront perdues, la peinture de Michel-Ange est connue à partir d'une copie d'Aristotèle da Sangallo en 1542-32 et la peinture de Léonard, est connue uniquement à partir de croquis préparatoires, et de plusieurs copies de la section centrale, dont la plus connue est probablement celle de Pierre-Paul Ruban, 11. Un feu utilisé pour sécher plus rapidement la peinture ou la qualité du matériel semble être à l'origine de l'altération de l'œuvre, laquelle a par la suite probablement, été recouverte par une fresque de Giorgio Vasari, 30. Léonard est consulté à plusieurs reprises comme expert, notamment pour étudier la stabilité du campanile de San Miniato al Monte, et lors du choix de l'emplacement du David de Michel-Ange, 30 où son avis s'oppose à celui de Michel-Ange. C'est à cette période qu'il présente à la cité de Florence, son projet de déviation de l'Arno destiné à créer une voie navigable capable de relier Florence à la mer avec la maîtrise des terribles inondations, 15. Cette période est importante pour la formation scientifique de Léonard qui, dans ses recherches hydrauliques, pratique l'expérience. En 1504, il revient travailler à Milan, qui est désormais sous le contrôle de Maximilien Sforza grâce au soutien des mercenaires suisses. Beaucoup des élèves et des adeptes, les plus en vue dans la peinture, connaissent ou travaillent avec Léonard à Milan, 16, y compris Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio et Marco Dogeno, 33. Son père meurt le 9 juillet, et Léonard est écarté de l'héritage en raison de son illégitimité, mais son ONCL fera plus tard de lui son légataire universel, 30. La même année, Vinci réalise des études anatomiques, et tente de classer ses innombrables notes. Léonard commence à travailler la Joconde, 1503, 1506 puis 1510, 1515, qui est habituellement considérée comme un portrait de Mona Lisa del Giocondo Elisa Maria Gherardini. Cependant, de nombreuses interprétations au sujet de ce tableau sont encore discutées. En 1505, il étudie le vol des oiseaux et rédige le Codex de Turin. Désormais observations, expériences et reconstructions a posteriori se succèdent, 15. Une année plus tard, le gouvernement de Florence lui permet de rejoindre le gouverneur français de Milan Charles d'Amboise, qui le retient auprès de lui malgré les protestations de la seigneurie. Léonard est tiraillé entre français et toscan, il est pressé par le tribunal de finir la Vierge au Rocher avec son élève Ambrogio de Prodi, alors qu'il travaille sur la bataille d'Engari, 30. Le peintre devient l'unique héritier de son oncle Francesco en 1507, mais les frères de Léonard entament une procédure pour casser le testament, 30. Léonard fait appel à Charles d'Amboise et Florimond Robertet pour qu'ils interviennent en sa faveur, 30. Louis XII de France est à Milan, et Léonard est de nouveau l'ordonnateur des fêtes données dans la capitale lombarde. En 1508, il vit dans la maison de Piero di Braccio Martelli avec le sculpteur Giovanni Francesco Rustici à Florence, 34 mais part habiter à Milan, à la Porta Orientale dans la paroisse de Santa Babila, 11. Louis XII revient bientôt en Italie, et entre à Milan en mai 1509. Presque aussitôt il dirige ses armées contre Venise, et Léonard suit le roi en qualité d'ingénieur militaire, il assiste à la bataille d'Agnadel, 15. À la mort du gouverneur Charles d'Amboise en 1511, et après la bataille de Ravenne en 1512, la France quitte le Milanais. Cette seconde période milanaise permet à Léonard de Vinci d'approfondir ses recherches en sciences pures. L'apparition en 1509 du Despondenti, effugien d'Irobut de Giorgio Vella a eu certainement une grande influence sur lui, 15. En septembre 1513, Léonard de Vinci part pour Rome travailler pour le pape Léon X, membre de la riche et puissante famille des Médici. Au Vatican, Raphaël et Michel-Ange sont tous deux très actifs à ce moment, 11. Devant le succès des Sangallo, Léonard ne se voit confier que de modestes missions, et semble n'avoir participé, ni à la construction des nombreuses forteresses romaines, qui marqueront l'évolution de la polyance éthique, ni à l'embellissement de la capitale. Pire, sa peinture elle-même ne semble plus de mise, et il se réfugie dans une autre spécialité, peut-être sa préférée, 15, l'hydraulique, avec un projet d'assèchement des marais pontins, appartenant au duc Julien de Médicis, 15. Léonard exécute, en 1514, la série des déluches qui est une réponse partielle à la version offerte par Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine. Les Médicis m'ont créé, les Médicis m'ont détruit, écrivit Léonard de Vinci, sans doute pour souligner les déceptions de son séjour romain. Sans doute pensa-t-il que jamais, on ne lui laisserait donner sa mesure sur un chantier important. Sans doute connaissait-on aussi son instabilité, son découragement rapide, sa difficulté à terminer ce qu'il avait entrepris, 15. Dernières années en France modifiées. En septembre 1515, le nouveau roi de France François Ier, reconquiert le Milanais par la bataille de Marignan, 35. En novembre 1515, Léonard se penche sur un nouveau projet d'aménagement du quartier Médici à Florence. Le 19 décembre, il est présent à Bologne pour la réunion entre François Ier et le pape Léon X, 16, 36, 37. François Ier charge Léonard de concevoir un lion mécanique pouvant marcher, et dont la poitrine s'ouvre pour révéler des lys, 19. On ne sait pas pour quelle occasion ce lion a été conçu, mais il peut avoir été lié à l'arrivée du roi à Lyon, ou au pourparlers de paix entre le roi et le pape, 38. Il part travailler en France en 1516, avec son assistant artiste peintre Francesco Malzi et peut-être même Salé, 34, où son nouveau mécène et protecteur, le roi de France François Ier, l'installe au manoir de son enfance, le Clos Lucé, à proximité du château d'Amboise, la demeure de l'époque du roi, en tant que premier peintre. Premier ingénieur et premier architecte du roi 14, avec une pension totalisant 10 000 scudi, 11. Peut-être à la cour de France, s'intéressait-on plus au peintre, à l'artiste qu'à l'ingénieur et, jusque-là, seul des Français s'était attaché l'illustre Florentin en qualité d'artiste, en Italie il n'avait jamais été engagé que comme ingénieur, 15. En lui donnant le Clos Lucé, François Ier dit à Léonard « Fais ce que tu veux ». Il n'est pas le premier artiste à recevoir cet honneur, Andrea Solario et Fra Giovanni Giocondo l'avaient précédé quelques années avant, 34. François Ier est fasciné par Léonard de Vinci, et le considère comme un père. Le manoir et le château d'Amboise étaient, d'ailleurs reliés par un souterrain permettant au souverain de rendre visite à l'homme de science en toute discrétion. Léonard projette la construction d'un nouveau palais à Romorantin avec le détournement d'un fleuve dans la Solbre. Il esquisse un projet de canal entre la Loire et la Saône et organise des fêtes, comme celle que le roi donne au château d'Argenton en octobre 1517 en l'honneur de sa sœur 15. Le 23 avril 1519, Léonard de Vinci, malade depuis de longs mois, rédige son testament devant un notaire d'Amboise. Il demande un prêtre pour recevoir sa confession et lui donner l'extrême onction, 19. Léonard de Vinci est emporté par la maladie, le 2 mai 1519, 34, au Clos Lucé, à l'âge de 67 ans. Giorgio Vasari rapporte une épitaphe qui semblerait expliquer qu'il est mort dans les bras de François Ier, 39, mais cela est contesté, car l'épitaphe qui n'a jamais été vue sur aucun monument, contient signorgio, une expression fort vague et probablement métaphorique, qui peut être traduite par chez le roi, ou comme une allusion à la mort de Léonard dans un château royal. De même, à cette époque, la cour est au château de Saint-Germain-en-Laye, où la reine accouche du roi Henri II de France, le 31 mars, et les ordonnances royales données, le 1er mai sont datées de cet endroit. Le journal de François Ier ne signale d'ailleurs aucun voyage du roi jusqu'au mois de juillet. Pour finir, l'élève de Léonard de Vinci, Franc Escomalzi, auquel il s'est livré ses pinceaux, et qui est dépositaire de son testament, écrit au frère du grand peintre, une lettre où il racontait la mort de son maître. Pas un mot ni fait allusion à la circonstance mentionnée plus haut et qui, si elle avait été avérée, n'aurait certainement pas été oubliée. 40. Selon ses dernières volontés, 60 mendiants suivent son cortège, et il est enterré à la chapelle Saint-Hubert, dans l'enceinte du château d'Amboise. Léonard de Vinci, toute sa vie célibataire et n'ayant jamais ni femme ni enfant, lègue l'ensemble de son œuvre considérable pour la faire publier à son disciple préféré, et élève depuis ses 10 ans, Francesco Malzi. Il lui offre notamment ses manuscrits, carnets, documents et instruments. Après l'avoir accompagné en France, il reste près de Léonard de Vinci jusqu'à sa mort, et gère son héritage pendant les 50 années suivant la mort de son maître. Cependant, il ne publiera rien de l'œuvre de Léonard et de nombreuses peintures, dont la Joconde, se trouvait encore en sa possession dans son atelier. Les vignes de Léonard seront divisées entre Salé, un autre élève et disciple très apprécié par Léonard, et entré à son service à l'âge de 15 ans, et son servant Baptiste à Divilussi. Le terrain sera légué aux frères de Léonard, et sa servante reçut un manteau noir avec les bords en fourrure. 41. C'est le début de la dispersion, et la perte des deux tiers des 50 000 documents originaux multidisciplinaires rédigés en vieux toscan, et cryptés par Léonard de Vinci. Chaque carnet, manuscrit, page, croquis, dessin, texte est noté et considéré comme une œuvre d'art à part entière. Il ne resterait que 13 000 documents environ, dont une majeure partie est conservée dans des archives du Vatican. 20 ans après la mort de Léonard, François Ier dira au sculpteur Benvenuto Cellini. Il n'y a jamais eu un autre homme né au monde qui en savait autant que Léonard, pas autant en peinture, sculpture et architecture, comme il était un grand philosophe. 42. Relations et influences modifiées. Léonard à Florence, maître et contemporain modifié. Pour consulter un article plus général, voir Renaissance artistique. Léonard commence son apprentissage avec Andrea del Verrocchio en 1466, année où le maître de Verrocchio, le grand sculpteur Donatello, meurt. Le peintre Paolo Uccello, dont les premières expériences avec la perspective influencèrent le développement de la peinture des paysages, est alors très âgé. De même, les peintres Piero della Francesca et Fra Filippo Lippi, le sculpteur Luca della Robbia, et de l'architecte et écrivain Leon Battista Alberti ont environ 60 ans. Les artistes les plus renommés de la génération suivante sont le maître de Léonard, Andrea del Verrocchio, Antonio Poliolo et le sculpteur Mino da Fisole. La jeunesse de Léonard se déroule dans une maison de Florence ornée des œuvres de ses artistes et par les contemporains de Donatello, Masaccio dont les fresques figuratives et réalistes sont imprégnées d'émotion, et Lorenzo Ghiberti, dont les portes du paradis montrent la complexité des compositions, alliant travaux architecturaux et soins des détails. Piero della Francesca a fait une étude détaillée de la perspective, et est le premier peintre à faire une étude scientifique de la lumière. Ces études et les traités de Leon Battista Alberti doivent avoir un profond effet sur les jeunes artistes, et en particulier sur les propres observations de Léonard et ses œuvres d'art. 43, 44, 45. La représentation du nu de Masaccio montrant Adam et Ève quittant le paradis, avec Adam sans ses organes génitaux masqués par une feuille de vigne, crée une image très expressive des formes humaines, qui influencera beaucoup la peinture, notamment parce qu'elles sont exprimées en trois dimensions par une utilisation novatrice de la lumière et de l'ombre, que Léonard développera dans ses propres œuvres. L'humanisme de la Renaissance influençant le David de Donatello, peut être vu dans les peintures les plus tardives de Léonard, en particulier Saint Jean-Baptiste. 43. Florence est dirigée à l'époque par Laurent de Médicis et son jeune frère Julien, tué par la conjuration des Pazzi en 1478. Ludovic Sforza, qui gouverne Milan entre 1479 et 1499, et chez qui Léonard a été envoyé, comme ambassadeur de la cour des Médicis, est aussi son contemporain. 43, 44. C'est également par l'intermédiaire des Médicis que Léonard fait la connaissance d'anciens philosophes humanistes dont Marcil Ficin, partisan du néoplatonisme, et Christopher Rolandino, auteur de commentaires sur les écrits classiques. Jean-Pic de la Mirandole est également associé à l'Académie des Médicis 45-46. Léonard écrit plus tard dans la marge d'un journal, « Les Médicis m'ont fait et les Médicis m'ont détruit », mais le sens de ce commentaire reste discuté, 16. Bien que l'on cite ensemble les trois géants de la Haute Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël ne sont pas de la même génération. Léonard a 23 ans quand Michel-Ange est né et 31 ans à la naissance de Raphaël. Raphaël mourra en 1520, une année après de Vinci et Michel-Ange, vivra encore 45 ans, 44-45. Assistant et élève modifié. Gian Giacomo Caprotti d'Aureno, 47, d'Il Saleno, le petit diable, ou Salé, a été décrit par Giorgio Vasari, comme un gracieux et beau jeune homme avec des cheveux fins et bouclés, en lequel Léonard était grandement ravi. 19. Salé entre au service de Léonard en 1490 à l'âge de 10 ans. Leur relation n'est pas facile. Un an plus tard, Léonard fait une liste des délits du garçon, le qualifiant de voleur, menteur, têtu et de glouton. Le petit diable avait volé de l'argent, et des objets de valeur à au moins 5 reprises, et avait dépensé une fortune en vêtements, dont 24 paires de chaussures, 48. Néanmoins, les carnets de Léonard des premières années de leur relation, contiennent beaucoup d'images de l'adolescent. Salé est resté son compagnon, son serviteur et son assistant durant les 30 années suivantes, 11. En 1506, Léonard prend comme élève Francesco Melzi, âgé de 15 ans, fils d'un aristocrate lombard. Melzi devient le compagnon de vie de Léonard, et il est considéré comme son élève favori. Il se rend en France avec Léonard et Salé, et reste avec lui jusqu'à sa mort, 16. Salé quitte cependant la France en 1518 pour retourner à Milan. Il y construit une maison dans le vignoble de la propriété de Léonard, qu'il s'est finalement vu léguer. En 1525, Salé meurt d'une mort violente, soit assassiné, soit à la suite d'un duel, 49. Salé exécute un certain nombre de tableaux sous le nom d'Andrea Salé, mais, bien que Giorgio Vasari prétend que Léonard lui a appris beaucoup de choses sur la peinture 19, son travail est généralement considéré comme étant de moindre valeur artistique que celui des autres élèves de Léonard, comme Marco d'Obbiano ou Giovanni Antonio Boltraffio. En 1515, il peint une version nue de la Joconde, dite Mona Vana 50. À sa mort en 1525, la Joconde appartenant à Salé a été évaluée à 505 lire, ce qui est une valeur exceptionnellement élevée pour un portrait de petite taille. 49. Giovanni Antonio Boltraffio et Marco d'Obbiano rejoignent l'atelier de Léonard lorsqu'il est de retour à Milan, mais de nombreux autres élèves moins connus tels qu'Ambrogio de Prodi, Bernardino dei Conti, Francesco Napolitano, Giovanni Antonio Boltraffio ou encore Andrea Solario sont aussi présents. Vie personnelle modifiée. Léonard de Vinci a eu beaucoup d'amis, qui sont reconnus dans leurs domaines respectifs, ou ont eu une influence importante sur l'histoire. Il s'agit notamment du mathématicien Luca Pacioli avec qui il a collaboré pour un livre, César Borgia au service duquel il a passé 2 années, Laurent de Médici et le médecin Marc-Antonio Delator. Il a rencontré Nicolas Machiavel, avec qui il développera plus tard une étroite amitié, et Michel-Ange avec qui il a été rival. Parmi ses amis, se trouvent également Franchini Gaffurio et Isabelle d'Este. Léonard semble ne pas avoir eu d'étroites relations avec les femmes, sauf avec Isabelle. Il a fait un portrait d'elle, au cours d'un voyage qui le mena à Mantoue, qui semble avoir été utilisé pour créer une peinture, aujourd'hui perdue, 16. Il était également ami à l'architecte Jacopo Andrea da Ferrara jusqu'à son assassinat, 30. Au-delà de l'amitié, Léonard garde sa vie privée secrète. De son vivant, ses capacités extraordinaires d'invention, son exceptionnelle beauté physique, sa grâce infinie, sa grande force et générosité, la formidable ampleur de son esprit tel que décrit par Vasari, 19 ont attisé la curiosité. De nombreux auteurs ont spéculé sur les différents aspects de la personnalité de Léonard. Sa sexualité a souvent été l'objet d'études, d'analyses et de spéculations. Cette tendance a commencé au milieu du XVIe siècle, et a été relancée au cours des XIXe et XXe siècles, notamment par Sigmund Freud, 51. Les relations les plus intimes de Léonard sont avec ses élèves, Salé et Francesco Melzi. Melzi a écrit que les sentiments de Léonard étaient un mélange d'amour et de passion. Il a été décrit depuis le XVIe siècle que ses relations étaient d'un caractère érotique. Depuis cette date, on a beaucoup écrit au sujet de son homosexualité présumée, et du rôle de cette sexualité dans son art, en particulier dans l'impression androgyne et érotique qui se manifeste dans Bachu, et plus explicitement dans un certain nombre de ses dessins, 52. Léonard est passionné par la nature et les animaux au point d'en devenir végétarien, 53 et d'acheter des oiseaux en cache pour leur rendre leur liberté, 54. Il est également très bon musicien. Il est admis que Léonard était gaucher et ambidextre, ce qui expliquerait son utilisation de l'écriture spéculaire, 9. Peinture modifiée. Malgré la relative récente prise de conscience et l'admiration vouée à Léonard, comme scientifique et inventeur, son immense renommée de la plus grande partie de ses 400 dernières années a reposé sur ses réalisations en tant que peintre et sur une poignée d'œuvres, authentifiées ou lui étant attribuées, qui ont été considérées comme faisant partie des plus beaux chefs-d'œuvre jamais créés. 55. Ses peintures sont célèbres pour de nombreuses raisons et qualités, qui ont été beaucoup imitées par les étudiants et discutées très longuement par les connaisseurs et les critiques. Parmi les qualités qui font des travaux de Léonard des pièces uniques, sont souvent citées les techniques novatrices qu'il a utilisées dans l'application de la peinture, sa connaissance approfondie de l'anatomie humaine et animale, de la botanique et la géologie, mais aussi son utilisation de la lumière, son intérêt pour la physiognomonie, et la façon dont les humains utilisent le registre des émotions et les expressions gestuelles. Son sens de la composition et son sens subtil des dégradés de couleurs. Il maîtrisait notamment la technique du sfumato et le rendu des ombres et des lumières. Toutes ces qualités sont réunies dans ses tableaux les plus connus, la Joconde, la Seine et la Vierge au Rocher, 56. Léonard a réalisé de très nombreux portraits de femmes, mais un seul portrait d'homme, celui d'un musicien, a été retrouvé à ce jour. On lui prête souvent la phrase suivante, le personnage le plus digne d'éloge est celui qui, par son mouvement, traduit le mieux les passions de l'âme, qui explique bien sa pensée de peintre. Cependant, il a aussi dessiné des croquis caricaturaux de ses contemporains dans la mode du grotesque. Léonard est surtout célèbre pour ses dessins et ses peintures dans lesquelles il introduit ses notions de mathématiques et utilise la perspective. Si l'utilisation du nombre d'or dans sa peinture, souvent admise, n'est pas avérée, 57, son travail sur les proportions, à l'image de l'homme de Vitruve, a été important. Vinci estimait que la peinture était une science, 26. Premiers travaux modifiés. Les premiers travaux de Léonard de Vinci commencent avec le baptême du Christ peint avec Andrea del Verrocchio, à qui il est attribué, et ses autres élèves. Deux autres peintures semblent dater de cette période à l'atelier, qui sont tous les deux des annonciations. L'un est petit, large de 59 cm pour seulement 14 de haut.